Merci Joël. Un plaisir d'être avec vous ce matin. Je vous invite à prier. Notre Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes de nous réunir ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à méditer dans ta parole. Parle-nous, Seigneur, afin qu'on puisse aussi nous la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Comment prendre des décisions? Qu'est-ce que vous faites pour prendre une décision importante? Galates 5, 16 nous dit « Marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Avant devant les décisions, nous avons deux choix. Soit nous laisser guider par l'esprit, soit nous faire notre propre vie. Nous sommes ici parce que nous voulons faire la volonté de Dieu. Alors, comment faire pour marcher dans l'esprit qui peut nous aider à prendre de bonnes décisions? Paul nous demande de marcher dans l'esprit. Mais comment peut-il nous aider, justement par l'esprit, à prendre de bonnes décisions? L'esprit nous est donné aux chrétiens pour nous transformer, pour nous concentrer sur Dieu et pour nous équiper, pour discerner la volonté et prendre des décisions en conséquence. Et le pasteur Surcher nous a parlé dans les deux derniers messages de la difficulté de demander à Dieu des signes pour nous rendre compte quoi faire. Car il est dangereux de se fier à des impressions intérieures dans notre cœur, à des pulsions qui nous viennent spontanément. Et le Seigneur nous a envoyé son esprit comme un consolateur, comme un conseiller, pour ne pas être simplement avec nous, mais en nous aussi. Et le Saint-Esprit nous unit au Christ pour l'aimer, pour l'obéir, pour exalter et glorifier Dieu. En conséquence, nous pouvons être guidés par l'Esprit qui est en nous et chercher la volonté de Dieu dans chaque décision que nous prenons. Selon Galates 5, 16, les connaître de marcher dans l'Esprit et de vivre dans la chair, le contraire de marcher dans l'Esprit et vivre dans la chair. Et la chair, c'est un terme dans la Bible qui se réfère à tout ce qui est opposé à Dieu. Alors le Seigneur nous demande, on est Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et quand Paul dit « soyez transformés », il utilise le verbe grec « metanoia » qui signifie « changer notre façon de penser ». Nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit qui change même la façon que nous avons de penser. Parce que ce sont nos pensées qui nous font agir et qui détermine notre comportement. Alors, la réflexion ne s'oppose pas à la marche dans l'esprit. Tout au contraire, l'esprit agit sur nos pensées afin de comprendre la volonté de Dieu et nous aide à faire de bons choix. Alors, qu'est-ce que vous faites pour prendre une bonne décision? Par où est-ce qu'on commence? Bon, bien sûr, c'est par la méditation de la Bible et par la prière. Vous avez là les 6 points que j'aimerais développer ce matin. Et on commence d'abord par la lecture et la méditation de la parole de Dieu et la prière. Vous avez entendu que c'est nécessaire de le faire, de chercher cette intimité avec Dieu pour fortifier notre communion avec le Seigneur. Et le psaume 37 nous dit « Faites de l'Éternel ses délices et il nous donnera ce que notre cœur désire. » Alors, comment être sûr que c'est la volonté de Dieu et pas la nôtre? C'est pour cela que nous devons prier au nom de Jésus. Et cette phrase, prier au nom de Jésus, est très profonde. Qu'est-ce que ça signifie? Supposons que votre voiture tombe en panne et que vous n'avez pas l'argent pour la réparer, vous avez un ami que son frère est mécanicien. Vous lui racontez les problèmes et votre ami vous dit « Bon, j'ai un frère qui pourrait la réparer, peut-être gratuitement. Va de ma part lui présenter les problèmes. Va en mon nom présenter les problèmes. » Alors, si vous arrivez, vous dites, je viens de la part de telle personne que c'est ton frère pour voir si tu peux m'aider. Peut-être. Il va vous aider gratuitement. Mais si vous ne connaissez pas les mécaniciens et vous allez de votre propre compte et vous dites, voilà, est-ce que vous pouvez me la réparer? Qu'est-ce qu'il va dire? Oui. Mais vous ne devez pas payer, bien sûr. Alors, demander quelque chose au nom de Jésus signifie aller au Père de sa part. Nous présenter devant le Père avec une pétition qui soit d'accord à ce que ferait Jésus. Parce qu'on ne va pas demander au Père quelque chose avec que le Seigneur ne sera pas d'accord. Alors, c'est pour cette raison que nous devons avoir cette intimité avec Dieu, cette intimité avec Jésus, pour comprendre qu'est-ce que Jésus veut de notre vie, quelle est sa volonté. Et au nom de Jésus, nous pouvons aller au Père et il va nous écouter. Cette amitié avec Jésus, ça s'est construit avec le temps. Tel comme une amitié s'est construite en passant du temps ensemble. Lorsque vous passez du temps avec Jésus, vous comprenez quelle est la volonté de Jésus pour votre vie. Ça veut dire que c'est nécessaire de méditer dans ses enseignements, de parler avec lui dans la prière. Et le Seigneur nous écoute. Le Seigneur Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14, 13, 14. Alors, combien de temps passons-nous chaque jour dans la méditation de la Bible et dans la prière? Vous savez, ça c'est la chose la plus importante pour pouvoir ensuite prendre de bonnes décisions. La prière nous prédispose aussi, elle crée des conditions dans lesquelles les bonnes décisions peuvent être prises. Alors, si vous êtes confronté à un choix difficile, c'est important de nous informer d'abord. Alors, informez-vous, rassemblez les faits qui vous conduiront à prendre une bonne décision. Découvrez tout ce que c'est nécessaire pour avoir la connaissance et ensuite prendre la bonne décision. Comme dit Proverbe 13, tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait élargir des folies. Alors, demandez-vous quelles sont les informations que vous avez besoin avant de prendre une décision. Et si vous avez quelques informations, demandez-vous si les sources de cette information sont fiables. Alors, il est important de faire un bon diagnostic pour résoudre un problème, afin aussi de résoudre le bon problème, pas un autre. C'est comme si vous allez chez le médecin, vous lui racontez votre problème, qu'est-ce que fait le médecin? Bon, le médecin ne va pas vous guérir. Il va d'abord s'informer, voir qu'est-ce que vous avez. Et pour cela, il est possible qu'il vous demande de faire des analyses de sang, d'urine, pour collecter l'information nécessaire. Une fois qu'il a l'information nécessaire, peut-être il doit aussi vous envoyer chez un spécialiste, mais une fois qu'il a l'information, c'est là qu'il peut vous recommander un traitement. Et vous allez acheter des médicaments qui vont vous guérir. Mais le médecin doit d'abord avoir l'information nécessaire dans la main, parce qu'il ne peut pas vous donner un diagnostic sans cette information. Et c'est ça que nous devons aussi faire devant une décision importante. Chercher l'information que nous avons besoin. Une fois que vous avez rassemblé l'information, comme a dit votre pasteur, prenez du conseil. Prenez du conseil avec des personnes qui sont bien informées, avec des experts dans les problèmes. Vous pouvez d'abord voir qu'est-ce que la Bible dit sur la situation, quels sont les enseignements de la Bible sur le sujet. Et vous pouvez expliquer votre problème ou votre situation à des personnes qui connaissent. Pas nécessairement à votre voisin, qui est le plus proche. Et c'est notre erreur de consulter les personnes qui sont tout à côté de nous, des personnes auxquelles nous avons de confiance aussi, mais qui n'y connaissent pas comment résoudre ce type de problème. Choisissez des personnes qui vont bien vous conseiller et pas vous dire simplement ce que vous voulez entendre. Proverbe 15 nous dit, quand nous ne consultons personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, les projets se réalisent. Alors pensez à différentes alternatives. Faites une liste des alternatives que vous avez. Et ensuite, vous pouvez éliminer les mauvaises alternatives, en particulier celles qui sont contraires à la éthique, celles qui sont contre la volonté de Dieu. Ensuite, vous pouvez choisir parmi les alternatives positives, celles qui sont viables selon la morale. Vous pouvez évaluer chacune des alternatives, les avantages et les inconvénients. Vous faites une liste d'avantages, une liste d'inconvénients, les pros, les cons. Comme dit Proverbe 16, toutes les voies d'un homme sont pures devant ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit et l'Éternel. C'est important de passer par ce processus, de comprendre les points positifs et négatifs de chacune des alternatives que vous avez. La Bible nous dit de suivre l'exemple du Christ. C'est lui qui est notre modèle. Alors, un disciple de Christ va se poser cette question. Qu'est-ce que fera le Seigneur Jésus à ma place? Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps et pas agir tout de suite, si possible, bien sûr. Prenez le temps devant les décisions importantes. Normalement, vous n'êtes pas obligé à décider immédiatement. Proverbe 19 nous dit « Celui qui se précipite dans l'action tombe dans le péché. » Et Proverbe 27 nous dit « Attends-toi donc à l'Éternel, espère dans l'Éternel. » Vous avez un spécialiste en management, quelqu'un qui s'est appelé Peter Drucker, il disait « Ne prenez pas de décisions impulsives. Les décisions impulsives sont des suppositions subjectives. Prenez du temps. Dormez d'abord. Dieu a peut-être d'autres projets. Méfiez-vous des occasions uniques que les gens vous présentent. L'attrait de la gratification instantanée. Si vous avez le temps, attendez un petit peu. Par exemple, si vous êtes dans un centre commercial et vous tombez sur quelque chose qui attire votre attention, quelque chose de très cher, et vous avez l'envie de l'acheter, et vous croyez que c'est une occasion unique, attendez un petit peu. Ne vous jetez pas dans la piscine tout de suite. Pourquoi tellement d'urgence? Alors, si vous attendez un petit peu, si vous réfléchissez, peut-être vous allez économiser de l'argent. Parce que l'achat impulsif, c'est une des premières causes de la crise financière de certaines familles. Proverbe 21 nous dit « Celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la misère. » Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Une fois que vous avez pris la décision, après évaluation des différentes alternatives, vous avez choisi quoi faire. Bon, il faut planifier. Planifier, c'est nécessaire. Le Seigneur même nous a dit, si un de vous veut construire un tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Le plan vous permet aussi de vous concentrer sur ce que vous voulez faire. Vous avez besoin de fixer des objectifs clairs et réalisables aussi, que soient possibles. Un plan vous permet d'identifier les obstacles et de chercher des possibles solutions aux obstacles que vous allez trouver. Un plan vous aide à réduire les risques. Il vous aide à calculer combien ça va vous coûter. Si vous ne planifiez pas, quelqu'un d'autre le fera. Dans le sens que vous allez travailler pour quelqu'un qui a un plan. Vous allez travailler et faire des efforts pour quelqu'un qui sait déjà qu'est-ce qu'il veut faire. Il va vous utiliser uniquement. Il vous dira quoi faire pour atteindre ses objectifs. Alors, c'est mieux de planifier par nous-mêmes, en lieu que les autres planifient notre vie. C'est bien de mettre les plans par écrit, fixer des dates, ce que vous allez faire spécifiquement à des moments précis. Et c'est important aussi d'ajuster les plans au fur et à mesure. De penser aussi à un plan B, parce que les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Proverbe 22 nous dit « Un homme prudent prévoit les difficultés et il se prépare. » Alors nous devons être prêts à affronter les difficultés dans notre plan. L'homme simple continue aveuglément et suivit les conséquences. Celui qui n'a pas planifié, il va simplement suivre les conséquences. Et c'est aussi possible de faire un petit test quelquefois. C'est ça qu'on vous propose quand vous voulez acheter une voiture neuve, vous pouvez aller la tester. Mais dans les grands projets, quelquefois, c'est possible de faire un petit test pour voir si ça va marcher ou pas. C'est comme si vous voulez peindre les temples, vous préparez la peinture et dans un coin, vous faites un petit test pour voir si la couleur que vous allez mettre, c'est exactement la même. Si ça ne va pas, après quelques heures, une fois sec, vous allez voir si c'est les mêmes tonalités ou pas. Si ça ne va pas, vous ajoutez un petit peu de colorant ou pas, afin d'arriver à la bonne tonalité de peinture. C'est ça de faire un petit test. Quelquefois, c'est possible de tester d'abord. Avant de vous jeter dans la piscine, vous mettez les pieds dans l'eau pour voir si la température, ça va pour vous ou pas. Et après, on peut se jeter. Et finalement, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous passez à l'action. Mais c'est aussi important de dire qu'il faut agir. Parce que quelquefois, on a fait toutes les étapes, mais on continue à attendre. Et on attend peut-être à avoir les bons moments, les bonnes informations, mais à certains moments, il faut agir. Parce que sinon, on perd l'opportunité. Quelquefois, on veut attendre pour minimiser encore les risques, pour continuer à rassembler d'autres données, mais le retard peut aussi avoir des conséquences. C'est comme quand les jeunes veulent s'inscrire dans l'université. Si vous planifiez tout et finalement vous ne le faites pas, la date est passée, c'est trop tard après. Alors, à un certain moment, ayant ou pas toute l'information nécessaire, il faut agir. Et il faut découvrir quels sont ces moments, parce qu'on peut manquer des opportunités importantes si on ne les fait pas. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4, nous dit « Celui qui observe les vents ne s'aimera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. » Il y a toujours un risque. Si on ne fait rien, on ne gagnera rien. Si on attend les conditions parfaites, on n'ira nulle part. C'est comme tourner en rond. C'est comme se balancer sur un fauteuil, la bascule, hein, la chaise versante. Que ça vous donne une sensation de mouvement, vous allez, mais vous n'allez nulle part, vous restez toujours sur place. Une fois la décision est prise, il faut avoir le courage d'agir. Notre tendance de rapporter systématiquement les actions au lendemain, ça s'appelle comment? La procrastination. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous avez besoin d'agir, pour agir? Est-ce que vous avez peur? Alors, finalement, si on peut reprendre tous ces points que j'ai présentés, méditer dans la parole de Dieu et la prière, vous informer, chercher du conseil et décider quoi faire, planifier et finalement passer à l'action. Quelle est la décision importante qui est devant vous? Quel est le choix que vous avez à faire dans cette semaine ou dans les futurs proches? Présentez ces choix au Seigneur. Pour ceux qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur, qu'est-ce que vous attendez? Si vous n'avez jamais dit au Seigneur, « Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, je me suis éloigné de toi. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai vécu ma vie loin de toi. » Moi, j'ai dû faire cette prière une fois dans ma vie. Et moi, j'ai prié, Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais loin de Dieu, même dans l'église. Parce que mes parents m'ont amené à l'église depuis petite. Et moi, je croyais que j'étais un chrétien parce que j'ai chanté toutes les chansons qu'il faut chanter, j'ai prié toutes les prières que les gens faisaient, j'ai participé à différentes réunions. Et quand il faudra faire quelque chose, je le faisais avec les autres frères et sœurs. Et un jour, je me rends compte, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je me sens tellement loin de Dieu? Et à 2 heures du matin, je me suis mis à genoux à côté de mon lit et j'ai demandé pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Toutes ces années, j'essayais de faire les choses par mes propres efforts. J'essayais de m'approcher vers toi avec mes propres efforts. Et je me sens encore loin de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur, reçois ma vie. Merci, Seigneur, pour ce que je suis, ton Fils a fait pour moi. Merci, Seigneur, parce qu'il a donné sa vie pour moi dans la croix. Et j'ai dit, j'accepte ce sacrifice pour moi. Pardonne-moi mes péchés. Et c'est ça qui a changé ma vie. Alors, vous êtes devant une décision importante, peut-être. Est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur? Ou pas encore? Faites-le, si vous n'avez pas fait. Parce que la Bible dit que c'est aujourd'hui le jour que vous pouvez prendre cette décision. Et si vous la prenez, il y a des personnes dans l'Église, des conseillers, des anciens, des pasteurs qui peuvent prier avec vous pour vous guider dans la vie nouvelle que vous commencez. Peut-être que vous êtes devant un choix important dans cette semaine. Est-ce que quelqu'un vous a invité de vous marier avec lui? C'est un choix important. Est-ce que vous êtes devant le choix d'un nouveau travail? C'est une décision importante. Peut-être que vous devez laisser un travail pour prendre un autre. Ce n'est pas facile. Ou peut-être vous êtes en train de réfléchir si vous devez voyager pendant cette crise sanitaire ou pas. Ce sont des choix importants que vous devez faire. Vous pouvez suivre ces pas qu'on vient de voir aujourd'hui. La plupart des personnes font ces étapes de façon inconsciente. On n'est pas nécessairement consciente de ce processus de décision, mais normalement, c'est le processus que nous suivons. Même si on ne l'écrit pas sur un papier, tout ça. Le problème, c'est de faire un court-circuit et de passer de l'idée à l'action directement. C'est ça qui arrive dans les supermarchés quand vous êtes devant quelque chose que vous voulez acheter impérativement. Vous passez de l'idée, parce que vous venez de découvrir ça, à l'action. Et vous oubliez de demander à Dieu. Combien de temps est-ce que vous avez prié pour acheter ce truc-là? Est-ce que vous avez prié quelques jours avant de l'acheter? Quelques semaines, quelques mois? Ou est-ce que c'est une idée qu'il est venu comme ça et vous avez l'impulsion de l'acheter? Voilà, c'est très dangereux d'agir par des signes que vous croyez recevoir. C'est important de réfléchir, de passer par le processus de décision. Même si on n'est pas consciente, on passe pour chacune de ces étapes. Alors, c'est mieux d'être consciente de ce processus et de l'utiliser afin de prendre de bonnes décisions.